France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Cette semaine, nous allons décortiquer des mots très à la mode, mais pas toujours clairs, préciser des concepts souvent utilisés à volo et à la légère, quitte à critiquer certains usages franchement fumeux. Nous évoquerons donc dans les jours qui viennent les notions de néolibéralisme, de déconstruction, de résilience. Vous m'accorderez que quelques éclaircissements s'imposent à propos de tous ces mots. Mais pour commencer, ce matin, voici une émission sur l'expression « hégémonie culturelle ». Pour le coup, son origine est souvent connue et volontiers rappelée. Cette expression provient du penseur Antonio Gramsci, mort dans les geôles fascistes italiennes en 1937 et auteur de très fameux cahiers de prison. Il s'agit de 33 cahiers en tout, écrits entre 1929 et 1935. Depuis quelque temps, tout le monde semble avoir à la bouche l'enjeu de l'hégémonie culturelle. Voilà ce qu'il faudrait retrouver, dit la gauche, contre une droite qui, alors qu'elle était en méforme dans la période 1960-1990, a ensuite habilement relancé le débat sur les valeurs et est devenue, elle, hégémonique désormais. Mais n'est-ce vraiment que cela l'enjeu de l'hégémonie selon Gramsci, à savoir une simple lutte sur le terrain des idées, sans prise en compte de l'état des forces matérielles, pour parler comme Marx que Gramsci, homme de gauche, connaissait bien, sans analyse politique plus globale sur l'état des classes sociales, sans réflexion plus approfondie sur ce qu'est et ce que peut l'État? J'ai l'intuition que nos invités vont déchirer ce simplisme stratégique pour revenir au fond du problème posé en son temps par Antonio Gramsci. Bonjour Jean-Claude Zancarini.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite d'études italiennes à l'École normale supérieure de Lyon, spécialiste d'Antonio Gramsci, mais aussi de Machiavel, que Gramsci connaissait bien. Avec vous, nous allons revenir au texte même de Gramsci. Je signale votre ouvrage coécrit avec Romain Descendre et paru aux éditions La Découverte en 2023, l'œuvre vie d'Antonio Gramsci. Et bonjour Judith Revel.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste notamment de la pensée de Michel Foucault. Vous connaissez très bien les pensées du politique qui ont circulé entre la France et l'Italie depuis 1945. Autrement dit, vous savez très bien repérer et décrypter les usages militants parfois très confus, voire farfelus, de Gramsci, de sa fameuse notion d'hégémonie culturelle et tout simplement de sa réflexion sur l'hégémonie.
Notre insuccès arithmétique masque une victoire idéologique évidente, puisque tous les candidats ont peu ou prou, Sarkozy avec le culot d'un joueur de bonneteau, basé leur campagne sur les valeurs qu'à contre-courant nous défendons depuis des décennies. La nation, la patrie, l'ordre, la sécurité, le travail, la famille, l'avenir de la France et des Français. Et même Jeanne d'Arc osait dire l'un d'eux, on a eu tort de laisser aux partis extrêmes. Nous disons cela depuis longtemps dans l'ombre des coulisses, où nous sommes à peine tolérés. Eux l'ont dit cette semaine dernière sous les projecteurs. C'est l'écrivain communiste italien Gramsci qui a écrit « Les victoires idéologiques précèdent les victoires électorales ». Donc, tôt ou tard, et par nos efforts, nous pouvons faire que ce soit plus tôt, nos idées arriveront au pouvoir. Il y va de votre courage, de votre travail, de votre ardeur militante.
C'était Jean-Marie Le Pen. Ce discours a été prononcé lors du défilé du 1er mai 2007, qui pour Le Pen est avant tout l'anniversaire de Jeanne d'Arc. Mais cet usage de Gramsci à droite et dans la droite extrême n'est pas récent. Déjà Alain de Benoît, fondateur de la dite « Nouvelle Droite », l'évoquait face à Bernard Pivot en 1979. Écoutez.
Vous savez toutes les théories de l'italien Antonio Gramsci, la façon dont il a mis l'accent sur l'importance de l'influence culturelle dans nos sociétés. Et Gramsci était bien entendu marxiste, mais ce qu'il disait du point de vue méthodologique, je crois, peut concerner toute famille de pensée.
Oui, ça paraît bizarre que Gramsci soit au premier rayon de votre bibliothèque, non?
Écoutez, je crois d'abord...
Maurras,
Barrès... Oui, je veux dire, je n'ai jamais été Maurras.
Non, mais
Maurras m'ennuie profondément.
Alors, pillage, siphonnage, adaptation finalement légitime d'une œuvre certes de gauche, mais utilisable au-delà des engagements de son auteur Antonio Gramsci. Comment entendez-vous tout cela, Jean-Claude Zancarini?
Ça me fait rire, mais à la fois ça me fait rire et ça m'énerve un petit peu, je veux dire. Mais parce que ce truc-là est une histoire longue du néo-fascisme à la fois italien et français, parce que le philosophe Alain de Benoist, c'est quelqu'un qui, avant d'être philosophe, était un militant fasciste d'un groupe qui s'appelait Europe Action, et qui, à ce moment-là, juste après la guerre d'Algérie, est allé en Italie et faisait le go-between entre Europe Action et Ordine Nuovo. Tiens, c'est quoi ce Ordine
Nuovo?
Oui,
qu'est-ce que c'est, précisément, hein,
qu'est-ce que c'est? Ah bah, c'est le nom du journal de Gramsci, mais repris par les fascistes. Quand je dis fasciste, c'est Pino Rauti, qui était un militant de la Repubblica Sociale Italienne.
Hein? Et voilà. Oui, Ordre Nouveau, je le disais en français, voilà, qui a été en effet une expression très marquée, droite extrême en France, un peu comme
voilà,
Occident.
Ils ont repris des Italiens, et les Italiens l'ont piqué, parce que en Italie, après la guerre, en gros, Ordine Nuovo, c'est le journal de Gramsci et de Turin dans les années 1920.
Mmh. Hein. Donc, si tu reprends... Mais répondez-moi quand même sur cet usage. Peut-être peut-on concéder à Jean-Marie Le Pen et à Alain de Benoist, que ce sont des personnages assez cultivés, qui ont lu des choses.
Oui, Gramsci, dit.
Gramsci, j'ai entendu. Mais cela dit, il n'est pas impossible qu'ils aient lu, qu'ils aient connu d'assez près.
Non, si. Il y en a, c'est impossible, même Alain de Benoist le dit, j'ai essayé de leur faire lire, ils lisent pas. Et lui, il a lu. De Benoist.
Ouais.
De Benoist a lu un peu. Il a écrit en tout et pour tout une dizaine de pages sur Gramsci. Donc, il a lu les choses sur les intellectuels, etc. Donc, ça, il sait. Mais tous ses autres camarades, quand ils commencent à faire ils font un colloque après la victoire de la gauche en 81. Ils font un colloque pour un gramschisme de droite. Il faut le lire. Parce que il n'y a pas un, à part lui qui sait deux, trois trucs, les autres citent Alain de Benoist, qui lui, quand même, a lu Gramsci. Donc, non, ils l'ont pas lu. Voilà. Après, les fascistes italiens, ils ont refait le coup dans les années 70 avec, ils disaient qu'ils se rencontraient avec les Campi Hobbit, hein, c'est les tolkienistes. Et dans ces Campi Hobbit, on lisait Julius Evola et Antonio Gramsci.
Alors pourquoi,
ça va deux secondes, quoi.
C'est une vraie question. Quel est votre regard sur ces usages à l'extrême droite de Gramsci, Judith Revel?
Je crois qu'il y a toute une tentative, c'est pas nouveau, d'investissement d'un certain nombre de figures qui sont des figures tutélaires de la gauche. Quand, par exemple, on entend la phrase Alain de Benoist, on vient de l'entendre à l'instant, Gramsci était un marxiste, mais tout est dans ce mais, et puis tout est dans ce qu'on met dans le mot hégémonie, qui va nous intéresser aujourd'hui, parce que si hégémonie, c'est la capacité d'un groupe social à organiser et à susciter, avant d'organiser, une sorte de consentement à sa propre domination sur les autres classes sociales, c'est exactement le projet fasciste. Chez Gramsci, c'est pas ça, l'idée d'hégémonie.
On va évidemment développer, préviens nos auditeurs.
Et je pense que cette idée d'organiser le consentement à une domination colle parfaitement avec un projet fasciste, mais c'est pas du tout ce que dit Gramsci.
Alors, encore une fois, Alain de Benoist, Jean-Marie Le Pen, on le sait qu'ils lisaient un certain nombre de textes théoriques de gauche. Et puis qu'il y avait, pour ce qui est de Le Pen, dans sa jeunesse, une envie de piller de tous les côtés. Et par exemple, enfin je connais ce témoignage, quand il y a eu l'enterrement d'Auvernay en 1973, qui est un moment très important pour une gauche radicale de l'époque, Le Pen était étudiant, même s'il n'était pas tout jeune, il assistait au cours d'Evelyne Pisier, et il s'est levé, il a dit « il faut tous qu'on aille à l'enterrement d'Auvernay », ce qui n'était apparemment pas son camp. Donc il y a, chez Le Pen, peut-être sur un mode un peu anarchiste, mais désordonné et provocateur, une façon d'aller chercher tout le monde, y compris des auteurs de la gauche marxiste.
Oui, mais moi je pense que si on dit ça, on dit deux choses ambiguës. D'abord, on dit, on réduit cet investissement des valeurs de gauche ou des personnages tutélaires de la gauche. Gramsci est mort en prison, c'est quand même pas rien. Cet investissement, on réduit ça à une volonté de provocation individuelle. Et moi, je pense qu'il y a derrière ça un projet qui est un projet politique. Et ce projet politique, il consiste à réabsorber un certain nombre de pensées et de figures qui, encore une fois, sont des figures symboliquement importantes dans l'histoire du marxisme et dans l'histoire du communisme, il faut dire le mot.
Oui.
Et en rendant les extrêmes équivalents. Et je ne crois pas qu'ils soient équivalents. En septembre dernier, le ministre actuel de la culture italienne a mis côte à côte, s'était projeté sur le mur à l'arrière, deux portraits. L'un était le portrait de Gramsci, mort dans les geôles fascistes,
oui.
Et l'autre était le portrait de Giovanni Gentile, philosophe italien, par ailleurs remarquable philosophe, mais c'est pas le problème, mais fasciste de la première heure, auteur du manifeste pour les intellectuels fascistes,
oui.
Et mort en 44 de la main des partisans. Mais c'est comme si on disait l'idéologue du fascisme. Oui. Mettre côte à côte ça, c'est à peu près comme si on mettait côte à côte, je sais pas, une figure tutélaire de la résistance française,
oui.
Et à côté un tortureur, voilà.
Ça,
de la guerre d'Algérie.
C'est la provocation absolue.
C'est pas
dont
possible.
Le Pen était un personnage parfaitement,
oui,
représentatif.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette opération d'investissement d'un certain nombre de textes, moi je suis pas sûre qu'ils aient lu, probablement Alain de Benoît, les autres je ne sais pas, et je pense que ça n'est pas la question.
Oui, bon,
la
alors
question,
on va l'arrêter.
Non, mais parce que la question, je pense qu'elle est, quelle opération politique est réalisée par ce genre de gestes,
oui,
de récupération.
Donc, provocation peut-être quand même pour l'opération politique. Et puis, peut-être que puisque Alain de Benoît, vous l'avez souligné, dans l'extrait que nous avons entendu, vous l'avez souligné, Judith Revel dit « Gramsci était marxiste, mais » ce n'est pas entièrement faux, il y a un « mais », il y a une conversation avec Marx chez Gramsci, et peut-être que c'est une façon d'enfoncer un coin et de dire « ah ben alors si c'est marxiste, mais » eh bien, moi, j'y vais, hein, et je le sors du marxisme et je l'utilise comme j'ai envie. Ce qui est gonflé et même insupportable, Jean-Claude Zancarini.
Alors, le mais, c'est une lecture de Marx, quoi, non ? Voilà, c'est une lecture de Marx. Et le mais, il est, alors, historiquement, il y a un mais de Gramsci par rapport au stalinisme et avec la ligne de l'internationale communiste. Donc c'est en ça il y a un mais que dit Gramsci très clairement pendant qu'il est en prison, il est en fait opposé à la ligne de l'internationale communiste de ce moment-là, qui était une ligne la ligne classe contre classe qui a donné les résultats qu'on sait, à savoir la victoire du nazisme, etc. Alors,
ah bah,
s'il y a ça, je m'occupe de Gramsci parce que c'est un marxiste, mais en fait, il reprend quoi ? Il reprend l'idée de la bataille culturelle.
La bataille culturelle.
Voilà. Et en fait, la bataille culturelle, c'est le nom d'une rubrique dans le journal de Gramsci quand il est à Turin, qui est voilà, la bataille des idées.
Qui a été rédigée
par Togliatti, justement.
Alors, est-ce que, finalement, l'analyse de Gramsci ne consiste qu'à dire il faut se battre sur le plan des idées, ce qui serait dit comme ça, trop peu élaboré. Il n'empêche que ce thème-là est devenu central à un moment donné dans la manière de faire de la politique en Occident, aux États-Unis, en France, peut-être après les expériences de Reagan d'un côté, après aussi, et c'est tout à fait opposé, le mitterrandisme en France. Tout d'un coup, il y a eu un trou d'air et beaucoup de gens ont dit maintenant, c'est le moment de reprendre la bataille des idées. Je vous propose d'écouter une archive de James Davison Hunter, qui est un sociologue américain qui enseigne à l'université de Virginia et qui parlait en ces termes à la radio le 2 mai 2025.
La guerre culturelle remonte en fin de compte à un conflit sur le langage lui-même. Par exemple, le mot « justice ». Tout le monde est pour la justice. La question est, qu'est-ce que ça veut dire, la justice ? Pour la gauche, la justice est essentiellement l'équité. Et pour la droite, la justice concerne la loi et l'ordre. Et littéralement, depuis 30 ans, j'entends la même chose. Et des deux côtés, on peut entendre qu'il n'y a pas de guerre culturelle. Nier qu'il y ait une guerre culturelle est en fait un acte dans la guerre culturelle. Ça revient à dire, s'il y a une guerre culturelle, il faut prendre l'autre côté sérieusement. S'il n'y en a pas, on peut les effacer, les ignorer. Ils n'ont pas de demande légitime.
Alors, c'était donc un universitaire américain qui disait que la bataille culturelle était relancée. Ça, c'est la grande préoccupation, Judith Revel, de beaucoup de monde, pas seulement à droite, mais aussi à gauche, dans les démocraties, depuis une trentaine d'années. On a l'impression qu'il y a eu un trou d'air. Peut-être est-ce aussi parce que les partis travaillent moins sur le plan des idées, forment moins leurs militants. Comment vous comprenez, vous, ce problème ?
Mais je pense que Gramsci nous apprend des choses. Par exemple, quand on disait tout à l'heure, Gramsci est en conversation avec Marx, un des éléments centraux de la relecture gramscienne de Marx, c'est l'insistance sur ce qu'on appelle l'historicisme, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des déterminations historiques et que ces déterminations historiques dictent en réalité les conditions de toute pensée politique et sociale. Donc, Marx ne vaut pas dans l'absolu. Marx vaut dans un contexte historique qui est le sien, et le contexte de Gramsci n'est pas exactement le contexte de Marx, parce que presque 70 ans les séparent. Et on pourrait dire la même chose de nous aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Gramsci pense à un moment qui est un moment de crise, il le dit lui-même, qui est la sortie de la Première Guerre mondiale, l'écroulement des empires, la Révolution de 17, bien entendu, le monde est en pleine transformation. Comment est-ce qu'on pense à la hauteur des transformations brutales, violentes, de ce monde ? Il me semble qu'on est exactement, non pas dans la même situation que Gramsci, puisqu'on est un siècle après, ou quasiment un siècle après, mais on est dans une période qui est une période où tout bouge. Première leçon de Gramsci, essayer de penser avec ce bouger-là, ou en fonction de ce bouger-là. Penser ce qui bouge, penser dans l'histoire, c'est réactualiser le projet d'une historicisation des déterminations sociales, politiques et culturelles. Du coup, la question de l'hégémonie culturelle, c'est quel type de culture, non pas culture comme un supplément d'âme par rapport aux déterminations sociales et politiques, mais quel type de culture, quel type de sujet politique, quel type de discours, quel type de mots pour décrire la réalité. Et ça, c'est le projet Gramsci.
Ça, c'est très important. Alors, nous allons y venir. Mais je voudrais dire à nos auditeurs qu'une nouvelle vient de tomber. Pendant que nous parlions dans cette émission, le pape François est mort ce matin à l'âge de 88 ans. C'est la raison pour laquelle, à 10h30, la rédaction de France Culture proposera un flash d'information, un flash spécial autour de la mort du pape François ce matin. Ce sera Mathilde Bouquerel à qui je céderai donc ce micro. Il nous reste d'ici là une dizaine de minutes. Alors, je voudrais qu'on parle de Gramsci lui-même, c'est le sujet de notre émission. Cette notion d'hégémonie, qui n'est pas que culturelle d'ailleurs chez Gramsci, est centrale en effet dans son travail, Jean-Claude Zancarini. Est-ce que vous pourriez nous dire, vous, comment vous définiriez cette notion, où ça vous paraît trop large comme question, auquel cas je vous propose quelques extraits de Gramsci et on avance de cette façon.
Parce que c'est en fait, quand on tire l'hégémonie, on tire tous les concepts de Gramsci.
Alors vous savez, je vois que c'est trop large.
Peut-être centré sur la question de la langue, de la crise.
Alors on parle de la langue et du langage, comme Judith Revel nous y a incité. Voici un texte de Gramsci tiré du cahier de prison numéro 10, où il explique à quel point le langage est un enjeu de premier plan.
Une fois la philosophie posée comme conception du monde, et la capacité d'agir philosophique conçue non plus seulement comme une élaboration individuelle de concepts systématiquement cohérents, mais en outre, et spécifiquement comme une lutte culturelle pour transformer la mentalité populaire et répandre les innovations philosophiques qui se révéleront historiquement vraies, dans la mesure où elles deviendront concrètement c'est-à-dire historiquement et socialement universelle, la question du langage et des langues doit être techniquement placée au premier plan.
J'entends, comme vous, Jean-Claude Zancarini, mais je ne vous cache pas que dire que la langue est un sujet central, je trouve souvent, beaucoup de gens le disent, on n'a rien dit en disant ça, me semble-t-il. Est-ce que vous pourriez me déchiffrer l'enjeu pour Gramsci?
Oui, c'est-à-dire, évidemment, on ne peut pas lire des textes qui font 4 pages à la radio, même à France Culture, mais ce qui vient après, c'est une réflexion sur le pragmatisme italien et la façon de concevoir la langue. Et cette question, c'est comment on fait pour... comment on fait pour que les gens acquièrent un langage commun, parce qu'en fait c'est ça la question, c'est comment on fait, et comment on fait, c'est un travail permanent de rapport entre, alors on va dire pour simplifier, intellectuel et masse, hein, avec l'idée que en permanence c'est un rapport entre maître et élève, mais le maître dit quelque chose à l'élève, mais l'élève lui dit quelque chose, et il y a un rapport dialectique entre les deux, il y a une transformation, et il y a, de ce travail-là, émerge ce que lui a appelé les intellectuels organiques, et qu'on tend à assimiler à des gens qui sont pour un parti, et donc c'est les intellectuels organiques du parti. Mais en fait, intellectuel organique, pour lui, c'est ça, c'est dans ce rapport permanent de persuasion, discussion, avancée, etc., quelque chose sort qui change les gens, qui enseignent, mais aussi les gens qui sont enseignés, qui deviennent eux-mêmes gens qui enseignent.
Alors, il y a le problème des intellectuels, mais il m'a semblé qu'il y a un problème peut-être plus immédiat encore, qui est que les classes sociales susceptibles de faire la révolution s'entendent, alors même qu'elles ne sont pas toutes, n'ont pas toutes exactement les mêmes problèmes, ne subissent pas le même type de domination et n'ont pas de raison d'avoir une bataille commune. Je rappelle qu'en 1844, Marx a publié un texte important, je parle du printemps 44 dans les annales franco-allemandes, qui s'appelle « Pour une critique de la philosophie du droit de Hegel ». Et dans ce texte, à un moment, Karl Marx dit qu'il y a un problème qui est la mesquinerie de classe, c'est un mot dans le texte, disant que parfois elles s'entendent pendant le moment de la révolution, comme les ouvriers ont aidé la bourgeoisie à faire la révolution française, mais une fois que une nouvelle classe dominante après la révolution se met en place, en l'occurrence la bourgeoisie, elle devient mesquine et elle opprime la classe même qui l'avait aidée à accéder au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas un des problèmes de Gramsci, le fait que les alliances de classe sont trop précaires, ce qui fait, pour parler encore comme Marx, que les piliers de la maison ne tanguent pas, le pilier de la domination. Il y a juste une classe qui remplace une autre et qui opprime son ancien allié. Qu'en pensez-vous, Judith Revel?
Oui, je pense qu'il y a ça, et puis il y a le problème des alliances, mais il y a aussi le problème de la constitution d'une conscience de classe qui est nécessaire à un projet socialiste, c'est-à-dire communiste à l'époque. Et l'hégémonie culturelle est en réalité, me semble-t-il, je parle sous le contrôle de Jean-Claude, la réponse que donne Gramsci à cet autre concept, qui est un concept marxien, qui est le concept d'idéologie.
Oui,
l'idéologie étant l'ensemble des représentations culturelles, des valeurs, des principes de la classe dominante, c'est-à-dire de la bourgeoisie. Et finalement, la question de Gramsci, elle est, mais pourquoi est-ce que... on est au début des années 30, pourquoi est-ce que 17 ne s'est pas produit ailleurs? C'est une vraie question. Et en réalité, la réponse qu'il se donne, ou le problème qu'il se pose, c'est que on n'arrive pas à constituer quelque chose comme une conscience de classe suffisamment forte à l'intérieur.
Et suffisamment large.
Et suffisamment large.
Mais malgré ce qui se passe en Allemagne, la révolution spartakiste, malgré...
Mais qui a été écrasée.
Écrasée, et malgré les mouvements révolutionnaires italiens.
Oui, tout à fait. Et finalement, cette nécessité de constituer une conscience de classe, elle va passer par... la constitution d'un langage commun, la constitution d'une culture qu'il va falloir organiser. Cette hégémonie culturelle dont il parle, c'est la condition de possibilité de la constitution d'une conscience de classe nécessaire au projet révolutionnaire.
Oui, Jean-Claude Zancarini, je vous en prie.
Juste dans ce même... dans cette même note des cahiers, il dit vraiment un climat culturel commun. C'est-à-dire que ça concerne la classe ouvrière, si on veut, mais pas seulement. C'est à un moment donné, dans l'évolution de la pensée Gramsci, il prend en compte l'ensemble des classes, l'ensemble des groupes subalternes et les classes subalternes. D'ailleurs, il va passer de classe à groupe subalterne dans le processus d'écriture. Et là, ce processus de transformation par la permanente persuasion, discussion, etc., il concerne cet ensemble-là, mais il dit pas que ça va se faire demain matin. Il dit, voilà, ça, il y en a pour des siècles.
Donc neutraliser peut-être ainsi, en effet, ce que Marx appelait la mesquinerie de classe.
Exactement. Mais parce que là, c'est plus, on est dans un travail vraiment qui va durer longtemps, etc. Et qu'est-ce qu'il dit pourquoi il y a eu l'échec le 17, pourquoi il n'y a pas eu, parce que on est passé dans une autre phase, qui est qu'on n'est plus dans la guerre de mouvement qui s'est arrêtée en Russie, qui a échoué avec, l'armée rouge bloquée devant Varsovie, en gros, c'est assez simple. Et là, maintenant, on doit penser en Occident dans les termes de la guerre de position, qui est donc une guerre très, qui est de transformation des mentalités, de travail, etc.
Voilà. Et donc, guerre qui concerne en effet les idées. Alors là, maintenant je rebondis sur le deuxième point après l'histoire de la mesquinerie classe, qui est un deuxième point important dans l'œuvre de Marx, et vous avez évoqué Judith Revel, qui est la notion d'idéologie. Le problème des idées en général, c'est que, selon Marx, elles reflètent la vision, en tout cas les idées dominantes, de la classe qui est économiquement dominante. Et ainsi, encore en 1859, dans sa préface à ce livre qui deviendra ensuite Le Capital et qui s'appelle encore Contribution à la critique de l'économie politique, Marx écrit ceci: pas plus qu'on ne juge un individu sur l'idée qu'il se fait de lui-même, on ne saurait juger une telle époque de bouleversement sur sa conscience de soi. Il faut au contraire expliquer cette conscience par les contradictions de la vie matérielle, par le conflit qui existe entre les forces productives sociales et les rapports de production. Ce qui fait écho à une autre phrase de l'idéologie allemande, écrite en 1800, autour de 1845. Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, c'est la vie qui détermine la conscience. Gramsci est-il, Jean-Claude Zaccarini, dans une réhabilitation beaucoup plus profonde des idées, du rôle des idées et de la conscience par rapport, en tout cas, à ces textes de Marx, car je ne voudrais pas non plus simplifier Marx. Est-ce que c'est ça l'enjeu pour Gramsci?
L'enjeu, c'est de dire que on a un travail à accomplir et qu'on peut l'accomplir. C'est-à-dire qu'on on peut partir du sens commun des masses, des subalternes en général, et on peut transformer ce sens commun, mais ça se fait pas en deux coups de cuillère à peau. C'est t'es déjà dans la manchette du journal en 1920. Instruisez-vous, car nous aurons besoin de toute notre intelligence. Et ça se poursuit. C'est-à-dire, en fait, c'est ça l'idée fondamentale, c'est ce rapport dialectique entre partir du sens commun et faire advenir un autre sens commun par le travail politique de persuasion permanente.
Je vous laisse réagir vous aussi à ce problème. C'est comme un problème chez Marx. Les idées sont toujours un petit peu en retard par rapport à ce qu'il appelle les bouleversements matériels. Est-ce que Gramsci est gêné par cet aspect du marxisme?
Je pense pas qu'il soit gêné. Je pense qu'il propose une autre lecture dans la contribution à la critique de l'économie politique que vous citiez et dans d'autres textes encore. Ce qui fait avancer l'histoire, on revient à la question de la représentation de l'histoire, c'est les contradictions qui existent entre les structures productives et les forces de production. C'est-à-dire, en réalité, le moteur de l'histoire, c'est quelque chose qui a à voir avec l'économie politique. Et la proposition gramscienne, elle n'efface pas l'élément économique, mais d'un côté, elle réouvre quelque chose qui pourrait être perçu comme un déterminisme marxien. Il n'y a pas de déterminisme marxien, il y a des déterminations à l'intérieur desquelles on peut jouer. Et puis, de l'autre, il réouvre cette dynamique historique à autre chose que l'économie. Et cette autre chose que l'économie, c'est par exemple le fait que les gens puissent se constituer pour eux-mêmes une représentation, une unité idéologique, dit-il, historiquement déterminée.
Judith Revel, je reviens tout de même au problème de Marx. Dans l'idéologie allemande, Marx écrit, je cite, « L'existence d'idées révolutionnaires à une époque déterminée suppose l'existence préalable d'une classe révolutionnaire. » Et donc, on ne peut pas aller plus vite que la musique, dirais-je. S'il n'y a pas, au niveau matériel, c'est-à-dire dans les rapports de production, des conflits d'une certaine sorte de gravité, tels que la classe dominante se trouve contestée, en danger, il n'y aura pas les idées révolutionnaires. C'est la radicalité extraordinaire du concept d'idéologie chez Marx. C'est une mise en cause de ce que peuvent les idées. Lui qui est allemand et qui trouve que tous ses collègues et confrères philosophes allemands prêtent beaucoup trop d'importance aux idées. Ce ne sont pas elles qui mènent le monde, c'est le monde qui, dans son évolution, produit les idées qui vont avec.
Oui, c'est vrai. Mais encore une fois, je pense que le rapport de Gramsci à Marx, qui mériterait beaucoup plus de temps, n'est pas seulement de l'ordre de la conversation, mais de l'ordre d'une proposition de lecture. Et que cette proposition de lecture qu'on trouve chez Gramsci, comme on la trouve chez Croce par ailleurs, de manière un peu différente, elle réinstalle Marx dans quelque chose qui a à voir avec l'historicité et elle fait prévaloir la dimension essentielle d'une détermination historique, pas seulement dans l'ordre de l'économie. Encore une fois, ça n'est pas seulement la contradiction interne qui existe entre les structures de production et les structures productives et les forces de production, oui, qui sont le moteur de l'histoire. Ça n'est pas que ça, c'est aussi ça, mais ça n'est pas que ça. Moi, j'avais noté en préparant cette émission un petit passage des cahiers où Gramsci dit l'un des défauts les plus grands des philosophies immanentistes, c'est-à-dire matérialistes, est de ne pas avoir su créer une unité idéologique entre le bas et le haut, entre les simples, i semplici, dit en italien, et les intellectuels. Et la question de la constitution d'un sujet de classe, elle est à la fois déterminée, bien entendu, par des éléments économiques, mais pas que. Et cette question de l'unité qu'il faut constituer, elle rend essentielle la question de la culture. Alors, ça amène à cette autre, Jean-Claude disait tout à l'heure, quand on parle d'hégémonie, tout vient avec, à cet autre concept gramscien qui est celui de l'intellectuel organique. Parce que l'intellectuel organique, il est entièrement redéfini à l'intérieur de ce projet. La figure de l'intellectuel organique, c'est pas seulement l'intellectuel associé au parti qui devrait éduquer les masses. C'est un intellectuel qui est construit à partir de ce que peut être et ce qu'est la culture des classes populaires, des ouvriers, c'est-à-dire une éducation technique, une liée au travail industriel, qui est le cœur, si vous voulez, des classes populaires de l'époque. J'ouvre une parenthèse, mais quand on se pose la question de l'actualité de Gramsci aujourd'hui, par exemple, moi, ce qui me semblerait intéressant, c'est de se demander quel type d'intellectuel organique, c'est-à-dire quel type de culture, quel type d'éducation correspond aujourd'hui à celle des classes populaires. Et dans ces cas-là, on ne peut pas ne pas se poser la question de se définir ce que sont aujourd'hui les classes populaires, qui ne sont plus les classes populaires telles que Gramsci les avait sous les yeux, mais qui n'étaient plus déjà les classes populaires telles que Marx les voyait quand il regardait le prolétariat en 1859, au moment de la contribution à la critique de l'économie politique.
Alors Jean-Claude Zancarini, l'intellectuel organique, j'ai beaucoup de questions à ce sujet. Je vous écoute d'abord pour nous signifier les enjeux de cette expression sous la plume de Gramsci.
En gros, Gramsci définit les intellectuels organiques comme étant justement ceux qui viennent avec une classe, quoi. S'il y a une classe nouvelle, elle produit des intellectuels. Parce que les classes produisent des gens qui lui donnent cohérence et conscience d'elle-même.
Donc faut-il qu'ils proviennent de des classes populaires pour être utiles à la cause des classes populaires ?
Non, c'est pas ça la question. C'est que c'est un phénomène qui existe de toute façon. C'est-à-dire que la classe ouvrière produit aussi les techniciens, les ingénieurs, les trucs, etc. autour. Mais il y a une autre forme, c'est une autre forme d'existence des intellectuels, qui est ce qu'il appelle les intellectuels traditionnels, c'est-à-dire les gens formés par les institutions scolaires, universitaires, etc. Et dans toute une série de textes, il appelle ces gens-là à commencer ce processus de constitution, de persuasion et donc d'émergence de gens qui vont venir directement de... C'est cette idée que dans ce rapport pédagogique entre maître et élève, hein, le maître est aussi éduqué par l'élève.
C'est le maître Marx, ignorant, hein. Comme dirait Jacques Rancière.
Oui, mais c'est surtout l'éducateur lui-même doit être éduqué. Oui. Des thèses sur Feuerbach, hein, il n'y a pas de doute. Oui. Donc, il a totalement ça. Et en ça, il ne coupe pas avec la tradition marxiste. De même que quand il reprend l'idée que les idées peuvent devenir des forces matérielles, voilà, c'est du Marx. Ouais. C'est du Marx, ça c'est clair.
Et le fait est que Marx, malgré tout ce que je viens de citer de lui, qui est un moment de vraie crise avec la notion d'idée, hein, dans l'itinéraire de Marx, ne sera jamais d'accord avec l'idée que les partis ouvriers, révolutionnaires, se réclamant de lui, puissent légitimement bannir les intellectuels. Il ne supportait pas cette idée. Et plus tard, il y aura des marxistes, Georg Lukács, mais surtout Karl Korsch, en 1923, dans Marxisme et philosophie, qui dira « Mais le marxisme n'a jamais été contre les philosophes. Marx n'a jamais voulu dire qu'il ne fallait pas d'intello dans les mouvements ouvriers, etc. » Est-ce que Gramsci, finalement, est dans cette même veine que Korsch, que Lukács ?
Il aurait fallu qu'il s'en aille tout de suite, Karl Marx, s'il n'y avait pas d'intellectuel. Et son copain avec. Non. Mais là, c'est pareil. C'est un processus. Il faut bien comprendre, c'est des processus. Mais que fondamentalement, il y a une idée, et c'est pour ça qu'il y avait, à l'origine, devait y avoir le texte sur le philosophe démocratique. Mais en gros, on doit penser le rapport des philosophes. Il met au singulier, notamment des philosophes, mais au sens le plus large, parce que philosophe, c'est en même temps l'histoire, la politique, et la politique, oui. Ça a l'air bon. Et ce processus-là, il va amener à ce que émerge des figures de philosophes démocratiques, c'est-à-dire de gens qui vont être capables de modifier la réalité idéologique. Il n'emploie pas trop le terme, en fait.
Mais en fait, oui, il est un peu gêné parce que le mot d'idéologie, mine de rien, il semble qu'il faille le dépasser pour Gramsci. Il y a un vrai statut des idées. Judith Revel, comment vous entendez la notion d'intellectuel organique chez Gramsci ?
Alors, il y a deux manières, me semble-t-il. Il y a une première manière qui serait, dans le contexte de l'époque, mais assez peu gramscienne, et qui serait de considérer l'intellectuel comme étant organiquement lié à l'instance qui représente le projet communiste à l'époque, c'est-à-dire le parti. Et des intellectuels organiques au sens de intellectuels internes à la ligne du parti, il y en a eu. Et il me semble que chez Gramsci, c'est plus intéressant que ça, puisque c'est celui qui assure la fonction de liaison. Je dis liaison parce que c'est pas parce que l'éducation, Jean-Claude le disait il y a un instant, on entend le mot éducation à sens unique, c'est-à-dire qu'il y a l'éducateur qui éduque les non-éduqués. La fonction de liaison, ça implique un va-et-vient. L'éducateur peut lui-même être éduqué et apprendre. Des classes populaires. Donc cet intellectuel organique, il est celui qui assure le va-et-vient entre le haut et les bas, entre les simples et les intellectuels, et qui élargit finalement la culture à la totalité de ceux qui peuvent, doivent, ont besoin d'une culture. Cette culture, elle ne leur est pas imposée par le haut, ils la constituent eux-mêmes, et c'est une culture qui... C'est pour ça que tout à l'heure, je rementionnais le mot d'idéologie. C'est une culture qui défait l'ensemble des valeurs, normes, représentations imposées par la culture dominante, idéologie, la culture bourgeoise, et qui la remplace par une culture qui est la culture de tous et non pas seulement la culture de quelques-uns.
Donc il y a une capacité de résistance, c'est une par les luttes, mais aussi par la réflexion,
bien sûr,
et par la résistance à l'idéologie.
Et par la production de sa propre réflexion, de ses propres valeurs, de ses propres normes, de ses propres représentations, celle-ci n'étant pas seulement une culture de classe, mais une culture pour tous. Et je pense qu'on retombe sur le thème du commun. Les intellectuels organiques, ils sont... Alors là où moi je trouve la chose intéressante, c'est qu'ils sont, chez Gramsci, au départ très liés à ce qui est le cœur de la culture des classes populaires qu'il a sous les yeux, c'est-à-dire, encore une fois, l'éducation technique liée au travail industriel, puisque c'est le travail industriel qui est la réalité des ouvrières et des ouvriers dans les années 30. Alors, la question que je repose, et je pense qu'elle participe d'une actualité du gramscisme aujourd'hui, c'est que serait aujourd'hui la culture, ou quelle est aujourd'hui la culture de ce que l'on pourrait appeler les classes populaires. Et la question à 1000 millions de dollars, c'est que sont les classes populaires aujourd'hui, derrière cette question de la culture.
Donc c'est faute de répondre à cette question que l'usage permanent de la notion d'hégémonie culturelle, expression Gramsci par plein de gens. On a cité Jean-Marie Le Pen et on a cité Alain de Benoît, mais on pourrait aussi évoquer à gauche, Jean-Luc Mélenchon. Bon, il y a aussi Nicolas Sarkozy à droite, hein, qui a dit à un moment donné que il était urgent pour la gauche de, je cite très précisément, c'était en 2007 dans Le Figaro, Nicolas Sarkozy disait « Au fond, j'ai fait mienne l'analyse de Gramsci, le pouvoir se gagne par les idées, c'est la première fois qu'un homme de droite assume cette bataille-là.
» Ça, c'est du Patrick Buisson.
Alors, donc, est-ce faute d'avoir compris que derrière la notion d'hégémonie et d'intellectuel organique dans les partis, etc., chez Gramsci, il fallait une analyse de ce qu'étaient les classes populaires. Est-ce faute de cela que c'est insupportable, fumeux et faux de la part de Nicolas Sarkozy d'avoir utilisé Gramsci ? Par ailleurs, vous le savez comme moi, Sarkozy a pas mal réussi en termes de vote dans les classes populaires. Donc, est-ce que ce n'est pas un peu plus compliqué ?
Je pense qu'il y a plusieurs moments. À gauche, on va parler de la gauche. Il y a un moment intéressant qu'il faut pas mélanger avec ce qui suit et qui est au départ le texte que Ernesto Laclos et Chantal Mouffe ont publié en 1985.
Ça, c'est pour la gauche. Ouais.
Mais c'est un texte qui a 40 ans et qui est hégémonie et stratégie
alors,
socialiste.
Alors là, je voudrais qu'on parle de Sarkozy parce que je viens juste de le citer. Alors c'est Jean-Claude Zancarini qui, je crois, piaffe.
Non, mais j'ai cité Sarkozy. Si c'est pour dire on a gagné la bataille des idées, il n'y a pas besoin d'aller chercher Gramsci. On va chercher Gramsci pour se donner une... Hein, c'est l'âne vêtu de la peau du lion, parce que en fait, il n'y a rien. Je veux dire, les batailles d'idées, elles sont permanentes. Et voilà, et des fois, c'est eux qui... Ça ne se joue pas sur une fois. Hein. C'est-à-dire, l'extrême droite gagne des points sur le point où le pape nous a aidés sur la gestion des migrants, etc., et eux, ils gagnent quand même, hein. On voit bien que c'est un combat permanent. C'est-à-dire, l'hégémonie, elle est jamais donnée à un moment donné et ça bouge plus. C'est-à-dire, c'est un combat permanent.
Et auquel donc, il faut donc travailler, dit Gramsci.
Bien sûr.
Et est-ce que tous les à gauche comme à droite, on va venir dans un instant à Chantal Mouffe, Ernest Laclos, à gauche, mais à droite aussi, est-ce qu'ils ne sont pas légitimes à dire, mais nous, on fait le même boulot, c'est ça qu'on fait, on essaye de conquérir l'hégémonie en matière d'idées. Et pourquoi on ne citerait pas Gramsci ?
Ah mais citer Gramsci, ça me gêne pas du tout, citez-le pour faire des choses intelligentes, et essayer de vous rappeler à quoi ça servait dans sa pensée à lui. Ça servait pas à opprimer, empêcher ses idées nouvelles de naître, etc. Au contraire, ça servait à donner une conscience de plus en plus grande aux subalternes. Donc là, d'accord, tu as tout à fait le droit d'utiliser, d'ailleurs, on sait bien, on va dire, Marx a été utilisé autant par les capitalistes que par les marxistes de stricte obédience. Donc là, c'est jamais que ça. Si c'est que ça, c'est pas très... Voilà. En revanche, rappeler ce que Gramsci avait en tête dans ce processus de transformation, d'hégémonie, de création d'hégémonie, de lutte pour l'hégémonie, de mise en place, tirer des masses, tirer des subalternes d'un nouveau type d'intellectuel, mais aussi en demandant aux intellectuels qui viennent du monde universitaire et scolaire de se placer de ce côté-là. Évidemment, hein, qu'il n'y a pas de problème de ce point de vue. En face, oui, non seulement ils ont le droit, mais ils le font. Donc, de toute façon, tout le monde le fait. Ça fait partie de la politique.
Alors, parlons de la gauche.
La crise, le combat, le conflit, c'est au fondement même de la politique.
Ça vous choque moins quand c'est fait à gauche, l'usage de Gramsci ?
Non.
Ça peut vous choquer aussi.
Mais ça peut me choquer aussi si c'est pareil pour dire le contraire de ce qu'il dit. Je veux dire, après, que les gens pensent, il faut... voilà, on s'en fout de la lutte de classe, et même si après, quand ils refont l'édition d'après, ils disent, oh non, mais c'est pas ça qu'on voulait dire, mais enfin bon, tout le monde avait vu que, enfin, je dis, tu le diras sans doute mieux que moi, mais dans Hégémonie et Stratégie socialiste, bon, on s'était un peu abandonné, l'idée de lutte de classe, etc., et c'était le bloc, un bloc, ce qu'ils appelaient la bataille culturelle.
Là, vous évoquez les
termes.
Souvent, les auditeurs sont pas forcément au fait de ces travaux. Chantal Mouffe est une intellectuelle belge qui a publié de son vivant avec Ernest Laclau, qui lui venait d'Amérique latine et qui est désormais décédé, une série de livres, elle a d'ailleurs prolongé après la mort de Laclau, une série de livres depuis les années 1990 qui utilisent la notion d'hégémonie. Et l'idée centrale, c'est qu'il faut obtenir une hégémonie, certes en matière d'idées, mais avec, je trouve ça un certain lien avec la notion de convergence des luttes, mais peut-être que vous êtes d'accord, bon, et que comme cela, on finira par avoir à gauche une vraie prise sur l'État, et c'est ainsi qu'on pourra restructurer et ressourcer une gauche au pouvoir vraiment efficace. Est-ce que Chantal Mouffe et Laclau, Ernest Laclau, sont fidèles à Gramsci dans ce maniement de la notion d'hégémonie?
Dans le livre de 85 que vous citez, et indépendamment de ce qu'ils ont pu dire par la suite, parce qu'ils ont aussi beaucoup parlé du populisme, etc., moi, ce que je trouve intéressant, c'est le point de départ. Le point de départ, il est, on est dans une crise généralisée de la gauche. Crise généralisée du discours social, 1985, comment est-ce qu'on peut essayer de reformuler théoriquement un projet socialiste? Le sous-titre de Hégémonie et stratégie socialiste, c'est « Vers une radicalisation de la démocratie ». Et on peut le dire autrement, on peut dire comment est-ce qu'on peut essayer de reformuler théoriquement quelque chose comme une démocratisation de la démocratie. Ça répond aussi à la question que vous posiez à Jean-Claude, quelle différence entre la droite et la gauche dans la référence à Gramsci? C'est que à gauche, malgré tout, la mobilisation, en tout cas au point de départ, théoriquement, la mobilisation de la référence à Gramsci sert à démocratiser la démocratie. Ce qui n'est pas le cas de l'usage fait à droite, où il y a toujours malgré tout...
Et à gauche, qu'est-ce que vous pensez des thèses de Chantal Mouffe
et
Ernest Laclau?
En 85, l'idée de Laclau et Mouffe est il y a une diversification des luttes sociales et des mouvements sociaux. Dans les années 80, il y a des mouvements féministes forts qui émergent. Ils existaient déjà auparavant, mais ils prennent une autonomie forte. Il y a des luttes antiracistes, il y a des luttes écologistes qui sont aujourd'hui notre quotidien, mais 40 ans ont passé. Comment est-ce qu'on fait finalement pour intégrer toutes ces luttes, tous ces mouvements sociaux nouveaux qui ne correspondent pas stricto sensu à ce qu'on a appelé des sujets de classe? Alors on leur a dit, et c'est pas faux non plus, qu'ils abandonnaient l'idée des luttes de classe. Il y avait malgré tout l'idée que la diversification des acteurs sociaux et des acteurs politiques demandait une reformulation de la chose. Et la réponse l'hypothèse qu'ils font, c'est il faut essayer de constituer une hégémonie. Une hégémonie, c'est une articulation, un agencement de ces luttes sans unification. Et la manière dont ils répondent à cet agencement sans unification, c'est constituer un nouvel imaginaire politique fondé sur l'acceptation de cette pluralité. Alors après, on peut discuter. Bon, je suis pas très convaincue de la manière dont il justifie la chose, mais la référence à Gramsci...
En utilisant Carl Schmitt, un penseur d'extrême droite,
du Lacan...
Les amis contre l'ennemi.
De défendre Mouffe et Laclau, il s'agit simplement de dire que le point de départ me semble intéressant. C'est-à-dire, que fait-on face à la pluralisation et à la transformation de l'expression des luttes sociales et politiques aujourd'hui? Et comment est-ce qu'on fait pour, non pas les unifier, mais les articuler les unes sur les autres? La réponse qu'il donne, c'est en travaillant sur un imaginaire politique. Et là s'accroche la référence à Gramsci. J'ai pas dit que j'étais d'accord avec leur pensée, j'ai pas dit que j'étais d'accord avec la référence schmittienne.
Mais je vous ai poussé un peu.
J'ai pas dit que j'étais non plus d'accord avec cette idée, mais on va pas faire un truc sur Mouffe et Laclau, qui était le signifiant vide, qui est le grand mot magique qui permet de faire tenir tout dans la pluralité et sans unité, mais quand même avec de l'unité. Donc, c'est pas ça la question. La question, elle me semble être, aujourd'hui, par exemple, et c'est aussi une actualité du gramscisme, si on veut réactualiser Gramsci à gauche et pas laisser simplement la place à toutes les tentatives de, d'investissement et d'instrumentalisation de droite, qui ne sont pas seulement de droite, mais qui sont d'extrême droite. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand l'anti-intellectualisme généralisé est de mise, quand les classes populaires sont essentiellement ou se sentent essentiellement représentées par des discours qui sont des discours à l'extrême droite, c'est-à-dire des discours souverainistes, des discours nationalistes, des discours qui voient des ennemis partout, en particulier dans les figures du migrant, etc., etc. Des discours qui se replient sur des valeurs culturelles, des valeurs familiales, des valeurs du travail, des valeurs de la fixation. On vient de le voir il y a quelques jours en Grande-Bretagne, sur l'identité biologique des... On a une espèce d'offensive, de régression absolument radicale. Que fait-on donc face à cette offensive qui restitue travail, famille, patrie, l'identité biologique, femme, homme, qui nie toute présence de l'autre. Que fait-on face à ça ?
Alors, dernier mot, justement.
On mène la guerre de position. C'est assez simple.
Qui est une expression de Gramsci.
Qui est une expression de Gramsci. Et on la mène... Je veux juste raconter ça. C'est qu'il écrit ça. Il est en prison. Il reste 100 militants du parti qui ne sont pas en prison dans toute l'Italie. Etc. Voilà, c'est là. Et il dit... Le fait que l'ennemi doive faire usage de toutes ses forces montre que la guerre de position n'est pas perdue. C'est ça que ça veut dire. Donc, la guerre de position, on a à la monnaie, c'est sûr qu'on se sent pas très à l'aise, on se sent pas très à l'aise avec l'offensive générale du fascisme international. Parce que bon, international réactionnaire, ça va bien deux minutes. S'il y a une internationale fasciste qui est en train de faire les trucs, vous mettez là, vous cochez la case, il y a que deux cases, vous cochez la bonne, etc., etc. Donc, voilà. Contre eux, on mène la guerre de position, donc c'est pas perdu.
Not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from the Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised.
Vous entendez, the revolution will not be televised. La révolution ne sera pas télévisée. Chanson de Jill Scott Heron de 1971. Merci beaucoup, Judith Revel et Jean-Claude Zancarini. Les références de vos travaux sont sur notre site. Je vous propose maintenant d'écouter Frédéric Worms. Sa série cette semaine porte sur la notion de climat, la responsabilité que cette question suscite. Voici le pourquoi du comment.
Comment le climat s'impose-t-il à nous ? On le sait et on s'en rend compte parfois à notre propre surprise. Il semble que l'on ne s'aperçoive du changement climatique, même s'il est global, que lorsqu'il vient nous affecter par des petits détails. Par exemple, tout à coup, effectivement, une chaleur anormale en plein mois de janvier ou au contraire, une tempête de neige en plein mois de juillet. Ce sont ces petits détails sensibles sur nous qui nous font sentir l'importance du changement climatique, alors que justement, la notion de climat désigne dessine plutôt quelque chose de global et d'extérieur à nous. On sent ce qu'on peut appeler climat, en fait, les facteurs externes d'un équilibre global dont dépendent les vivants dans un milieu donné. Le climat, c'est un équilibre et un équilibre externe, un équilibre global. C'est un ensemble de facteurs qui fait que lorsque l'on parle du changement climatique planétaire, on parle de l'ensemble des facteurs géoscientifiques, géophysiques, géoclimatiques, comme on dit, qui environnent la Terre dans son ensemble. Il y a ainsi une sorte de deux extrêmes dans la notion du climat, deux extrêmes qui font que, d'ailleurs, dans les deux cas, nous ressentons comme une impuissance vis-à-vis du climat. D'un côté, il y a cette notion globale qui semble indépendante de notre action, et c'est pourquoi les climato-sceptiques pensent qu'il y a des lois générales que les humains ne peuvent pas affecter. Et de l'autre côté, il y a cette sensation infinitésimale, ce petit sentiment subjectif de l'ambiance, de l'atmosphère, ce petit sentiment que le climat a changé, que oui, en effet, il y a quelque chose de bizarre, et ça ne pas seulement à ce moment-là pour les grands changements de l'atmosphère, de la respiration, par exemple, de la température de la planète, mais on parle aussi du microclimat, des microclimats humains aussi, du climat social et politique, du climat qui règne dans cette pièce, dans cette famille, dans cette maison, dans ce groupe, dans cette amitié, dans cette inimitié. Il y a dans le climat quelque chose de globalement objectif et aussi quelque chose de minimalement subjectif. Ce paradoxe est pourtant une prise très profonde sur la notion même de climat. Car aujourd'hui, en effet, il y a un double renversement de la notion de climat. D'abord, le climat, comme ensemble de facteurs externes qui dominent les équilibres planétaires, les équilibres du vivant, le climat, le principal changement qui affecte la notion de climat, c'est justement que dans sa dimension globale elle-même, elle cesse d'être indépendante de nous. On a toujours dit, il n'y a plus de saison, mais aujourd'hui, d'une certaine façon, les sciences elles-mêmes montre les facteurs humains qui produisent les changements climatiques globaux. Les climato-sceptiques peuvent dire ce qu'ils veulent, la causalité scientifique est ce qu'elle est, les prédictions seront vérifiées, elles commencent à l'être, et les causalités humaines sur le climat commencent à être redoutablement démontrées. Mais on ne s'en rend compte que par des petits changements climatiques sur nos subjectivités. Alors, est-on totalement impuissant? Comment faire pour prendre conscience des changements globaux? Eh bien, la réponse est simple, il faut un petit changement de climat, non pas attendre les grandes tempêtes ou les grandes catastrophes, mais plutôt des petits changements de climat politique, faire que les grandes questions climatiques entrent dans nos climats humains.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger et Riyad Kera, avec à la technique Anthony Thomasson. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Chaïma Giboire, Axel Dubois, Armance Bourquin, Anna Fulpin et Nassim Elkabli. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.